Sébastien Paris-Horwitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste à la Banque Transatlantique. On va parler avec vous des marchés et des perspectives sur ces marchés. Bien entendu, on s'intéresse toujours à ce qui se passe sur les marchés de taux d'intérêt, mais pas seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les banques centrales, quand même, restent à la manœuvre sur ces marchés?
Oui, tout à fait. Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe où plus de la moitié des emprunts d'État ont aujourd'hui des taux d'intérêt négatifs. Donc évidemment, la raison essentielle tient à l'activisme des banques centrales, et notamment dans ce cas précis de la BCE. Mais c'est vrai aux États-Unis, même si ça fait un temps que la Fed n'achète plus de papier, elle a un impact sur les taux longs. Évidemment, si on va en Angleterre ou au Japon, ces impacts sont très importants. Donc c'est elles qui sont à la manœuvre, ce qui fait que les rendements sont très 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 faibles. Et c'est pour ça que pour les investisseurs, les emprunts d'État restent peut-être pas toxiques, mais difficiles d'y accéder en termes d'investissement.
Justement, c'est pas évident puisqu'ils sont obligés, quasiment obligés d'aller prendre du risque, pour aller chercher du rendement, c'est-à-dire d'aller sur ces marchés actions. Mais on sait, quand on voit d'ailleurs la banque centrale suisse aller acheter, être premier actionnaire de Facebook, ça paraît fou.
Oui, ça paraît, c'est fou. On a innové depuis la crise. On pensait que ces mesures de politique monétaire allaient durer sur une période courte, et elles s'étendent. Et à chaque fois, on invente de nouveaux outils et de nouvelles interventions. Donc ça devient un fou. Et comme vous le disiez, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher du rendement ailleurs. Et donc, où ailleurs? C'est notamment dans la dette des entreprises. C'est là où on a un petit peu plus de rendement. Il faut évidemment beaucoup plus de diversifier. C'est pas le même risque qu'on prend que d'acheter un emprunt d'État. Et cette diversification aujourd'hui est absolument essentielle dans la façon dont les investisseurs doivent agir. Et donc, dans la dette des entreprises, y compris celle avec beaucoup de risques, c'est là où il faut essayer de chercher un peu de rendement.
Alors, on avait vu aussi les investisseurs assez de côté par rapport au marché émergent. Ça avait été une grande tendance il y a quelques années. Et puis, avec ce potentiel, effectivement, cette potentielle hausse de taux américaine, ils étaient partis. Cette hausse des taux n'est toujours pas là. Est-ce que c'est le moment d'y revenir? Comment on regarde ces marchés émergents?
Les marchés émergents ont souffert de pas mal d'ajustements. Le premier d'entre eux était celui de la Chine, qui continue de changer son modèle de croissance, mais en décélérant très fortement, elle a affecté tous les pays émergents qui se sont très fortement ajustés sur les dernières années. Il se trouve que 2016 est une année un peu de transition, où les choses vont un petit peu mieux. C'est vrai qu'en Chine, c'est grâce à beaucoup de soutien public, et c'est pour ça que les investisseurs sont revenus, non seulement pour aller chercher du rendement, parce qu'ils ne trouvaient plus ça dans les pays développés, mais aussi parce qu'il y a une certaine embellie, au moins conjoncturelle, y compris des pays qui étaient en récession devraient retrouver un petit peu de croissance, comme le Brésil ou la Russie en 2017. Et c'est ça que les investisseurs sont allés chercher, notamment sur le marché obligataire. Une des meilleures performances cette année, c'est les obligations des pays émergents, comme pour les actions, à ceci près que souvent, comme dans les actions, le marché va un peu vite. Et peut-être aujourd'hui, c'est très bien valorisé. Ça reste intéressant ici et là, mais c'est un petit peu plus exigeant. Peut-être la dette est plus intéressante pour les investisseurs qui regardent le moyen terme.
Alors, on parlait des banques centrales en introduction. Au Japon, bien entendu, la Banque du Japon est intervenue. On voit cette politique, hein, particulière au Japon. On se demande, avec la dette, avec ce système japonais, si ça peut fonctionner. Comment on regarde le marché japonais?
Le marché japonais, c'est un peu le cauchemar de tous les investisseurs. Chacun a un jour perdu des plumes en investissant au Japon. Alors, d'abord, comprendre la politique japonaise est difficile, la politique économique japonaise. Comme vous le savez, la Banque centrale vient de changer, innover. On parlait tout à l'heure de l'innovation des banques centrales dans ses objectifs. Aujourd'hui, son objectif, c'est maintenir le taux à 10 ans autour de zéro. Hein, c'est pour mieux ancrer les anticipations des agents. Maintenant, cette politique reste très accommodante. Elle va continuer à stimuler la Banque centrale, le marché, à injecter des liquidités. Et du côté budgétaire, pareil, une relance de l'ordre de 5 points de PIB sur les années qui viennent. Tout ça est un élément de soutien pour le marché japonais. Si on prend la bourse, qui est intéressante, il ne faut même pas regarder les obligations. La bourse est intéressante, il y a des valorisations intéressantes, mais pas toute la bourse. Encore une fois, c'est une économie qui ne croit pas, une économie qui a encore beaucoup de problèmes, mais il y a des choses intéressantes au Japon.
Alors quand on regarde les marchés, on va dire de façon globale, on parlait des taux qui étaient très bas, on avait aussi les matières premières, et on peut avoir toujours deux visions sur les marchés en disant « mais quand les matières premières sont si basses, ça veut dire que l'économie va mal, que l'économie ne fonctionne pas ». Est-ce qu'il y a encore une grille de lecture sur les matières premières pour l'investisseur ?
Alors, d'abord, l'économie va mal. C'est-à-dire que la croissance qu'on connaît depuis quelques années est une croissance assez médiocre comparée à l'histoire récente. Maintenant, les premières, elles allaient encore très mal il y a quelques temps. Une des raisons, c'était la Chine. La Chine est un des grands consommateurs de matières premières. Sa décélération a joué un facteur négatif sur les matières premières. Aujourd'hui, elle retrouve des couleurs. Et la demande pour que ce soit les métaux ou d'autres matières premières remonte. Et la reine d'entre elles, une des reines, c'est le pétrole. On peut parler de l'or, mais une des reines, c'est le pétrole. Et le pétrole remonte parce qu'il y a un accord de l'OPEP, ce qui va durer, on ne le sait pas, qui devrait résorber un petit peu l'excès d'offres qu'il y a sur ce marché. Ça serait une bonne nouvelle pour l'ensemble des matières premières. Donc la grille de lecture aujourd'hui, c'est un petit peu plus de croissance aidera les matières premières, c'est ce qui semble s'opérer aujourd'hui.
Est-ce que vous diriez que l'investisseur n'a pas d'autre choix, on en parlait en introduction, d'aller chercher du risque, mais comment il va limiter son risque s'il va sur les actions, s'il va sur certains actifs plus risqués? On parlait de diversification, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour éviter effectivement de prendre quand même trop de risques?
Il y a une seule façon de le faire, jusqu'à peu de temps, c'était d'avoir un peu plus de liquidité. Le problème, c'est que dans certains pays, les taux sont devenus négatifs et on est taxé, on doit payer pour détenir la liquidité. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. C'est un petit peu l'objectif, finalement, des banques centrales. Et ce qu'elles voulaient, c'est que tout le monde prenne peut-être trop de risques. La question, est-ce qu'on en prend vraiment trop et on va créer de l'instabilité dans l'avenir? Ça, c'est un des sujets pour les banques centrales. Aujourd'hui, les investisseurs doivent aller chercher du risque. D'après nous, on peut trouver du risque bien rémunéré, mais qui, dans un portefeuille bien diversifié, devrait encore permettre aux investisseurs de trouver leur petit.
Merci Sébastien Paris-Sorvitz.
Merci.